Moi, je ne suis pas spécialiste du Japon plus que ça. J'ai simplement participé à un programme ANR, donc financé par l'Agence nationale de la recherche, un programme qui s'appelait DEVAST, qui visait à évaluer les impacts de la catastrophe d'il y a 3 ans, jour pour jour, au Japon, évaluer les impacts plutôt politiques, socio-économiques, etc. Donc ça s'est passé le 11 mars 2011. C'est vraiment un symbole assez fort aujourd'hui, cette catastrophe-là. Hein, c'est un peu la catastrophe ultime qui a généré, vous l'avez vu, à travers la presse notamment, mais aussi au sein des institutions politiques et des ONG, un vrai sentiment d'effroi. On a vraiment eu l'image quand on a tous vu à la radio, à la télé ou entendu des commentaires à la radio. On a tous vu cette image d'une centrale nucléaire qui explose. C'est une image relativement impressionnante qui a suscité beaucoup d'effroi à travers la planète entière, finalement, parce que c'est vraiment finalement le pire de ce qui peut arriver à l'humanité aujourd'hui. Et en plus, c'est arrivé dans un pays industrialisé. Alors, on va parler de Tchernobyl après. Donc, c'est vraiment un sentiment assez fort qui a dominé. Et puis, en parallèle, un sentiment un peu d'espoir. L'espoir de tout un chacun, quelque part au fond de soi, l'espoir que cette catastrophe, en fait, serve de leçon. Enfin, on a un énorme événement qui arrive dans un pays qu'on pensait complètement protégé de ce genre de risque. Là, ça arrive, c'est majeur, c'est mondial. Ça va enfin servir de prise de conscience à l'humanité sur la réalité du risque. Et ça a suscité beaucoup d'espoir au sein des gens qui travaillent sur les questions de changement climatique. Alors, on va le voir, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Fukushima, mais cette question du risque environnemental, il y a eu beaucoup d'espoir. Est-ce que ça va servir de leçon? Et très très vite, en fait, ce qui s'est passé, et j'en viens à pourquoi moi je me suis intéressé à ce cas-là, pourquoi j'ai accepté de participer à ce projet. Très très vite, en fait, cette catastrophe, c'est devenu une catastrophe nucléaire. C'est-à-dire un accident technologique, industriel, c'est devenu, les anglo-saxons appellent du man-made disaster. Donc vraiment une catastrophe technologique et strictement humaine. Et en fait, finalement, petit à petit, on a complètement oublié qu'à l'origine de tout ça, il y a quand même des aléas naturels. Et en l'occurrence, un méga tremblement de terre et un méga tsunami. Moi, je travaille spécifiquement sur les risques d'origine naturelle. Et donc le fait qu'on oublie cette origine naturelle dans cette catastrophe m'a un petit peu perturbé, et c'est pour ça que j'ai participé à ce projet, parce que avec d'autres collègues, on s'est bien rendu compte que finalement cet oubli de l'origine naturelle de la catastrophe mettait bien en lumière le fait que nos sociétés industrialisées prennent peu en compte les aléas naturels. En fait, elles ont le sentiment de pouvoir s'en affranchir. Ce qui, pour le coup, est une preuve que c'est pas vrai, et en particulier quand on a affaire, comme ici, à des aléas naturels extrêmement intenses et de faible occurrence, c'est-à-dire qui sont peu fréquents. Donc, globalement, je vous donne déjà la conclusion, comme ça on s'affranchit de ça et après on raconte l'histoire. Donc, ce 3.11, c'est des aléas naturels au départ, donc tremblement de terre, tsunami, auxquels évidemment se sont greffés des facteurs anthropiques. On va discuter beaucoup de ça par la suite. Et bref, c'est finalement un cas assez intéressant qui montre bien que nos sociétés développées sont elles aussi vulnérables aux risques naturels. Alors, à dire comme ça paraît assez évident. En fait, quand on écoute les discussions dans les instances internationales, etc., on a l'impression que la vulnérabilité au risque naturel, c'est pour les pauvres, et que nous, on est capable de s'en affranchir. Et effectivement, ce cas-là montre qu'on est loin de cette situation. Donc, on va ensemble un petit peu décrypter ce qui s'est passé au lendemain de cette catastrophe du 11 mars. On va le faire en essayant de reconstruire la chaîne d'impact de cette catastrophe. Moi, c'est le point spécifique sur lequel j'ai travaillé dans ce projet. Donc ça consiste à expliquer les liens qui sont directs ou indirects, entre des impacts qui sont finalement de nature extrêmement variée. Et on discutera un petit peu pour savoir ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars précisément? Je vous le donnerai, hein, le PowerPoint, si... Enfin, n'y a pas de copyright, il n'y a rien. Ça a commencé quand même donc par un méga tremblement de terre de 9.0 sur l'échelle de Richter. Si vous n'êtes pas familier, l'échelle de Richter, c'est celle qui mesure l'intensité des tremblements de terre. Il y a 12 niveaux dans l'échelle de Richter. 9, c'est vraiment un tremblement de terre vraiment extrême. On n'a jamais vraiment eu beaucoup plus que 9, 9.5. Donc c'est un événement très très rare. Hein. Il y en a eu deux sur la période entre guillemets récente. C'était au Chili en 1960 et à Sumatra en 2004. Sumatra, ça doit résonner dans vos têtes. C'était à Noël, donc on en a entendu parler. Donc des événements extrêmement rares. Celui du Japon, là, une récurrence, une période de retour de une fois tous les 1000 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ça a été le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré au Japon. Donc quand même, à l'origine, il y a un événement assez important. La secousse, alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu les tremblements de terre. Moi, j'en ai vécu quelques-uns, des tout petits. Ça dure quelques secondes et on se sent déjà complètement dépossédé et on voit bien qu'on ne peut plus rien faire. Là, ça a duré 6 minutes. 6 minutes, c'est vraiment une éternité. Hein. Vous compterez en repartant chez vous, 6 minutes, c'est vraiment très très long avec des secousses très très fortes. Donc voilà, c'est quand même un événement assez important avec des secousses qui ont été ressenties à plus de 300 km de l'épicentre. Tremblement de terre qui génère un tsunami. Alors vite fait, comment ça se passe? Vous avez des plaques sous l'océan qui s'entrechoquent ou qui s'écartent. En tout cas, ça crée une onde de choc en fait qui déforme la surface de l'océan. Donc il y a une onde qui se forme et elle se propage, alors des deux côtés, hein, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est quand elle va ici. Propagation de l'onde qui en fait au fur et à mesure s'intensifie, c'est pour ça que vous avez un recul à la côte juste avant un tsunami, et après c'est vraiment une accumulation d'eau, c'est pas comme juste une vague en fait, c'est vraiment un mur d'eau qui déboule sur la côte. Le 11 mars, le tsunami... on a enregistré sur la côte japonaise des vagues de 6 à 15 mètres, donc à la côte. 6 mètres, c'est déjà beaucoup. 15 mètres, c'est vraiment très très haut. Et comme c'est un mur d'eau, il y a vraiment une puissance derrière qui est vraiment importante. C'est une submersion qui est allée assez loin à l'intérieur des terres. On a enregistré des traces de la submersion jusqu'à 6 km à l'intérieur des terres, avec un run-up de 39 mètres. Alors le run-up... le run-up, c'est ici vous avez en fait des montagnes, donc l'eau arrive, elle se propage, elle se confronte à la montagne, ce qui fait que le mur d'eau en fait accumule l'eau et c'est la hauteur que l'eau a atteinte sur la montagne. 39 mètres, c'est beaucoup aussi quand même. Faut pas être en dessous. Et évidemment, les villes côtières ont été ravagées, hein, certaines comme Ishinomaki en haut, 13% de sa surface submergée, la moitié de son bâti. Dévasté, donc c'est des événements qui comptent dans une trajectoire de ville. Et puis évidemment, c'est là qu'on arrive à l'accident nucléaire. C'est une conséquence indirecte du tsunami, pas du tremblement de terre, on va y revenir après. C'est une conséquence indirecte du tsunami parce que en fait, les vagues n'ont pas détruit la centrale en tant que telle, mais en fait ont endommagé les systèmes électriques principaux et le groupe électrogène de secours, ce qui fait qu'il n'y avait plus de système de refroidissement, donc ça a chauffé à bloc, c'est ce qui a généré en fait, la fusion des réacteurs nucléaires. Pour rappel, il y en a plusieurs, il y a le réacteur numéro 4 qui n'a pas été directement affecté, mais quand même. Dans le réacteur numéro 4, on a une piscine de refroidissement, c'est là qu'on stocke les tubes radioactifs. Cette piscine, aujourd'hui encore, elle fuit, on n'arrive pas à la refroidir, on ne sait pas comment faire, et c'est quand même une petite piscine qui contient l'équivalent des 700 bombes nucléaires qu'on a fait exploser jusqu'à maintenant à la surface de la Terre. Donc globalement, c'est une petite piscine qui menace l'humanité entière. Donc on est loin d'avoir fini cette histoire de Fukushima, et à mon avis, oui, on en a encore pour un bail. Alors à partir de là, on a eu une multitude d'impacts extrêmement variés. On va en reparler, et nous, notre but dans ce projet, c'était d'essayer de développer une image un peu d'ensemble de la diversité des impacts de cette triple catastrophe, comme elle est nommée. Et donc, c'est passé par la reconstruction de ce qu'on a appelé la chaîne d'impact. Alors, Schématiquement, c'est vraiment un principe assez intuitif. On a un élément qui en implique d'autres, qui en implique d'autres, etc., etc. La chaîne d'impact, c'est ça. C'est assez simple comme principe, hein. C'est le principe des effets dominos. Comment on a procédé ? On a commencé par évidemment récolter des données. Alors, sur le terrain, on a Reiko Hasegawa et Rina Kojima qui ont passé à peu près 6 mois sur place. Pas en permanence dans les zones irradiées, vous inquiétez pas. On aime la recherche, mais pas à ce point-là. Qui ont fait beaucoup d'entretiens auprès des populations évacuées, des populations qui étaient restées sur place, auprès des gens des collectivités locales, auprès des gens du gouvernement, etc. Et en parallèle, on a fait toute une revue de la littérature, alors scientifique, mais aussi la presse, à l'international et au Japon, et des rapports d'ONG. Donc ça, c'est la partie collecte de données qui nous a permis en fait de faire en premier lieu un recensement de tous les impacts qui étaient évoqués soit par les autorités, soit par la presse, soit par les populations, etc. Et ensuite, chacun de ces impacts, on les a caractérisés. On en a identifié la nature, l'origine, les temporalités. Est-ce qu'il était directement lié à un des 3 événements, tremblement de terre, tsunami ou explosion nucléaire, ou est-ce que c'est un impact dérivé d'autres impacts, est-ce que c'est un impact secondaire, etc. Donc on a établi une liste qui nous a permis de prendre déjà conscience de la diversité des impacts en termes de nature. On a des impacts socioculturels, on a des impacts économiques, on a des impacts environnementaux, évidemment, des impacts politiques, etc. Donc là, on commence déjà à voir combien un double aléa naturel, en fait, a des ramifications dans l'ensemble de ce qui fait la société et le territoire. Une diversité en termes de temporalité, il y a des impacts qui se sont fait sentir immédiatement et qui n'ont pas eu tellement de conséquences au-delà de quelques jours. Et puis il y en a, je vous parlais de cette piscine du réacteur numéro 4, qui continue, qui risque de continuer encore pendant plusieurs décennies. Donc la durée de vie d'un tsunami, c'est pas juste une vague qui passe, hein. Et une diversité en termes d'échelle spatiale avec des impacts, on va le voir, très localisés, puis d'autres qui ont eu une résonance à l'échelle internationale. Et à partir de là, on a essayé, en prenant tous ces impacts, chacun écrit sur un post-it. Alors là, c'est un peu de la méthodologie, mais ça peut être intéressant aussi de voir comment la connaissance se construit. On a mis chacun des impacts sur un post-it et on a mis les post-it au fur et à mesure qu'on devinait ou qu'on comprenait que celui-là était un peu généré par celui-là ou celui-là. Et donc c'est comme ça qu'on est passé d'un tableau à une chaîne d'impact. Donc le but, c'était d'avoir une image globale de cette catastrophe, donc au-delà du problème nucléaire, donc toujours dans cette idée de sortir de 3.11 égale Fukushima. Donc on a recensé à peu près, après on a fait des petits regroupements d'impact parce qu'on ne pouvait pas tout. Donc on a recensé à peu près 66 impacts, ou 66 catégories d'impact, on va dire, qu'on a regroupé en 6 champs principaux. Alors les impacts humains, pour rappel, 16 000 décès quand même, c'est dans un pays industrialisé, il n'y a pas beaucoup de catastrophes qui génèrent autant de décès. 90% de ces décès sont liés au tsunami, c'est surtout des gens qui se sont noyés. Et on a eu 344 000 déplacés, ce qui là aussi fait beaucoup. Des impacts matériels, 360 000 bâtiments endommagés et totalement détruits. Des impacts matériels également en termes d'ouvrages de défense, de structures de protection des littoraux, que ce soit des murs comme ça ou des forêts littorales qui ont été endommagées. Bien sûr, l'explosion de la centrale nucléaire en tant que telle et essentiellement les manufactures. La région qui a été affectée, il y avait beaucoup de manufactures de pièces automobiles et de pièces informatiques dans cette région-là. Évidemment, les vagues sont passées par-dessus et il y a eu beaucoup de dégâts, donc beaucoup de dégâts en termes de sur les moyens de production, évidemment sur ça c'est des effets induits en termes de perte d'emploi et des effets à l'international, on va y revenir. Des impacts environnementaux, alors directement liés au tremblement de terre, il y a eu une subsidence du sol. Alors la subsidence du sol, c'est quand le sol s'affaisse. Ça c'est un lien direct avec le tremblement de terre. Une subsidence du sol qui fait que sur le littoral, le sol qui s'abaisse, c'est la mer qui prend la place, et donc on a une perte de surface terrestre qui a été assez importante. Une subsidence du sol qui s'est fait à hauteur de 40 cm à 1,20 m. Sur des littoraux bas, ça fait beaucoup. Disons qu'on perd vite beaucoup de surface. Le tsunami donc a généré évidemment des inondations fortes, notamment dans les préfectures d'Iwate, de Miyagi et de Fukushima. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 6 km à l'intérieur des terres. Bref, ça a eu pour grande conséquence de saliniser les sols dans une région qui est aussi très agricole. Quand la mer en fait arrive, elle dépose évidemment du sel, l'eau se retire ou s'évapore et reste le sel, et le sel c'est pas bon pour l'agriculture, en tout cas pas à ce niveau-là. Évidemment, toujours dans les impacts environnementaux, une pollution de l'air et de l'océan. Alors un nuage radioactif qui s'est bien diffusé, on a retrouvé des traces en Islande, ça c'est au niveau de la pollution de l'air. Au niveau de la radioactivité, de la pollution de la mer, alors la centrale fuit toujours, donc on n'est toujours pas sorti du problème. Par contre, ce que montrent les scientifiques pour l'instant, c'est qu'ils font des mesures, ils mesurent de la radioactivité, mais ils mesurent aussi un effet de dilution et par les masses atmosphériques et par les masses océaniques. Et pour l'instant, ils restent prudents sur la conclusion à tirer. Est-ce qu'on a vraiment injecté trop de radioactivité dans ces deux sphères, ou est-ce que finalement et l'atmosphère et l'océan vont finalement diluer ce que balance la centrale. Pour l'instant, voilà, les conclusions ne sont pas encore très fermes là-dessus. Enfin, il y a quand même d'énormes inquiétudes, c'est évident, mais scientifiquement, il n'y a pas encore de preuves que la situation est irréversible. Des impacts d'ordre économique, évidemment. Alors voilà, sur les activités littorales comme la pêche, destruction des ports, destruction des bateaux, des réseaux de transport, etc. Et un problème de pollution de la ressource. Alors vous savez, hein, le Japon, c'est quand même un très très gros consommateur de produits de la mer. Et cette région-là, en l'occurrence, était très très productrice de produits de la mer consommés à Tokyo. Donc il y a un impact derrière qui est évidemment la demande en provenance de Tokyo a complètement chuté, ce qui génère de la nouvelle perte d'emploi, etc. Donc une situation assez compliquée. Globalement, les estimations portent à peu près 110 000 emplois perdus de manière directe par l'événement, directement liés à l'événement, 110 000 emplois perdus. Auxquels il faudrait ajouter, mais là-dessus il n'y a pas de travaux qui ont été développés. Tous les emplois indirectement perdus. Mais on va revenir un peu là-dessus aussi. Je crois que les Nations Unies estiment à 200 milliards d'euros le coût global de la catastrophe. Globalement, enfin moi, la conclusion que j'en ai tirée à force de lire, c'est que le coût de long terme est quand même extrêmement difficile à mesurer. J'ai toujours pas compris sur quelle base, en fait, ils avaient réalisé leurs évaluations économiques. Mais bon, c'est certainement très sérieux. Des impacts socioculturels dans les zones affectées tant par le tsunami que par la centrale nucléaire. Déclin démographique dû aux décès et aux évacuations. Il y a des villes comme Rikenza, Takada qui ont quand même perdu finalement du jour au lendemain à peu près 15% de leur population. Et vraiment du jour au lendemain, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça a généré évidemment un déclin des effectifs scolaires et de toute l'activité économique de la ville. Et certaines situations sont vraiment très préoccupantes parce que quand on est affecté par un accident nucléaire et qu'on est en première ligne, il y a de fortes raisons de penser que les gens ne reviendront jamais. Donc autant dans les villes affectées par le tsunami on peut reconstruire et finalement redévelopper un tissu économique, etc. Dans des villes affectées par la radioactivité, il y a plus d'interrogations, c'est quand même un peu plus problématique. Et une dernière catégorie d'impact, donc plutôt d'ordre politique cette fois-ci, avec la mise en lumière finalement de problèmes préexistants, on va en reparler tout à l'heure, de marginalisation économique et politique de cette région rurale du Tohoku qui a été affectée. Et une forte déstabilisation des liens de la population aux autorités locales, de la population au gouvernement et des autorités locales au gouvernement, dans un pays qui était plutôt verrouillé jusque-là. Donc voilà, cette chaîne d'impact, en fait, ça permet de faire un recensement des impacts et d'essayer de les lier les uns aux autres pour voir comment des impacts de différentes natures ou de différentes échelles spatiales, en fait, sont liés les uns aux autres, et c'est un petit peu comme ça qu'on fait un bilan d'une catastrophe, en fait. C'est pas juste en regardant ça plus ça et en se disant que ça suffit. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Globalement, ce qu'on a tiré de cette chaîne d'impact en termes de compréhension, c'est qu'on a trois grandes catégories de séquences d'impact. Ben dis donc. Ce qu'on a appelé les séquences simples, bon, voilà, faible nombre d'impacts qui sont impliqués, avec des liens finalement assez directs des uns aux autres. Et notamment entre l'élément déclencheur, et là en l'occurrence le tsunami, enfin le tremblement de terre et le tsunami, et ses conséquences finales, comme par exemple la gestion des déchets. Donc là c'est la chaîne que je vous montre. Tremblement de terre, tsunami, inondation, qui effectivement ravage les villages, vous en avez une bonne idée ici, donc qui génère beaucoup de déchets, qu'il faut ensuite traiter, ce qui a un coût économique, même politique, etc. Il y a quand même 25 millions de tonnes de déchets qui ont été générés en quelques heures. Et pour une partie de ces déchets, enfin une partie d'entre eux sont radioactifs, donc ça pose encore d'autres problèmes de traitement. Donc ça dure encore. Des séquences plus complexes, donc là on a des séquences simples, mais en fait avec une plus grande, enfin plus de ramifications, et notamment plus de liens qui se tissent entre des impacts de nature assez variés. Je ne vais pas dans le détail, on pourra y revenir si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément très intéressant. Et ensuite, des séquences qui montrent des effets, et celles-là, elles sont vraiment importantes, et quelque part, en termes de politique publique, ce sont des éléments qui doivent intéresser les politiques publiques aussi. Des séquences à rétroaction qui génèrent des effets de cercle vicieux, on en a quelques-uns ici, qui finalement en fait accentuent, accélèrent les impacts et parfois même finalement permettent encore une diversification de la ramification des impacts. Donc vous avez vraiment une séquence qui se fait, et puis après c'est la machine qui prend le relais, et quelque part on peut ne jamais en sortir. C'est comme une déprime. Enfin la déprime c'est finalement moins dangereux. Bref. Ce travail permet, donc cette chaîne d'impact, c'est un outil en fait, hein, qui va permettre d'avoir une vision d'ensemble du 3.11, alors qu'auparavant, enfin, ce qu'on avait, c'était vraiment des visions partielles, alors sur l'environnement, sur les aspects politiques, etc., mais pas de vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'on en tire ? On en tire, voilà, cette vision un peu globale, avec quelques chiffres clés, notamment en termes d'échelle de temps. On se rend compte que le 3.11, 90% des impacts que nous on a recensés ont un effet direct, immédiat, sur le court terme. Mais il y en a, parmi tous ces impacts, il y en a aussi 80% d'entre eux qui ont aussi une implication sur le moyen terme. Alors moyen terme, on a défini ça comme de 5 à 10 ans. Le court terme, c'était dans les moins de 5 ans. Et le long terme, c'est plus de 20 ans, enfin 10 et plus. Et on a quand même 40% des impacts qu'on a recensés qui ont une résonance à une échelle locale, à une échelle de court terme, de moyen terme et de long terme, donc à plus de 10-20 ans. C'est quand même quelque chose d'important. De la même manière, au niveau des échelles spatiales, on a 80% des impacts qu'on a recensés qui ont eu un effet directement dans les localités affectées, évidemment. Mais finalement, 60% ont aussi des implications nationales et 15% ont aussi des implications internationales. Donc quand un tremblement de terre ou un tsunami arrive quelque part, ça ne concerne pas que cet espace-là ou les espaces voisins. Ça peut parfois concerner des espaces très 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 distants. Et puis, en termes d'origine, on s'est rendu compte que le tsunami, le tremblement de terre avait généré un tiers des impacts qu'on avait recensés et avait largement contribué à un autre tiers des impacts. Ce qui montre bien que cette catastrophe, c'est pas celle de Fukushima, c'est quand même une catastrophe d'origine naturelle au départ. Donc c'était un petit peu la conclusion que nous, on avait développée. Ce qui nous permettait de transformer ça en message, les nations développées doivent se sentir concernées par les risques naturels et plus généralement par les changements environnementaux. Elles ne sont pas invulnérables. C'est un message qui résonne fort aussi après dans la sphère des gens qui travaillent sur le changement climatique. Alors, au-delà de ce travail-là, là, c'était peut-être pour vous montrer comment on a mis les mains dans le cambouis et ce qu'on a fait. Quand on prend un peu plus de recul par rapport à notre travail et qu'on intègre aussi ce qu'on a appris des discussions avec d'autres chercheurs, etc., on peut tirer quelques grands enseignements. Enfin, il y a quatre grands points sur lesquels on peut revenir et qui sont quand même assez intéressants parce qu'ils apportent des leçons au-delà du cas japonais, mais ils permettent de tirer des enseignements pour d'autres pays. Alors, le premier enseignement est assez paradoxal, mais et il a évidemment pas été évoqué dans la presse, mais par contre, il a été développé par plusieurs scientifiques. C'est d'abord que finalement, on en parlait à midi, finalement, cette catastrophe, elle a d'abord montré que le Japon était vraiment au top en termes de technologie antisismique. Pourquoi ? Deux exemples. Je vous ai dit, secousse de 6 minutes d'une intensité extrême qui a touché Tokyo. On a tous vu des images des meubles qui tombaient, etc. Tokyo a résisté. Il n'y a pas d'immeuble qui est tombé. Vous voyez pourtant que c'est des... c'est en général construit plutôt en hauteur, Tokyo. Vous imaginez bien qu'une intensité comme ça, sur une durée comme ça, aurait complètement ruiné Paris, par exemple. Donc quand même, la technologie japonaise est assez impressionnante. Assez impressionnante aussi parce qu'on se rend compte que dans l'explosion nucléaire, donc de la centrale, finalement, le tremblement de terre a pratiquement pas joué. La centrale a même encaissé une surcharge supérieure à 20% de son seuil de tolérance en termes de secousses. Donc on a quand même, c'est le tsunami qui a généré le problème nucléaire et c'est pas le tremblement de terre. Donc c'est quand même, dans la catastrophe, il faut aussi essayer de voir ce qui est une marque de ce qu'on a bien fait aussi quand même. Il y a plein de choses qui ont été mal faites, on va en parler après. Au niveau des défenses côtières, là vous avez la mer, hein. On a aussi vu que, les scientifiques tirent aussi la conclusion suivante, c'est que le système de défense côtière du Japon est quand même extrêmement performant. Alors vous avez vu tout à l'heure des ouvrages de défense cassés, évidemment qu'il y a eu des dégâts, mais les scientifiques s'accordent quand même à dire que s'il n'y avait pas eu ce système de défense-là à ce moment-là, les dégâts auraient été bien plus considérables. Là, vous avez ce qu'ils appellent les grands murs. Alors, les grands murs, c'est dans la ville de Taro, qui a eu un mur qui s'est développé dès les années 30 et qui a été rehaussé au fil des événements. Aujourd'hui, il fait 10 mètres de haut, il fait 30 à 40 mètres de large et c'est sur plusieurs kilomètres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, alors qu'il a été en partie cassé par le tsunami. Mais juste en partie, si vous avez ce genre d'événement qui déboule ici, alors ici encore ça va, mais en Charente-Maritime, c'est la catastrophe assurée. Je vous ai montré tout à l'heure des petits ouvrages de défense qui étaient détruits, mais ils ont finalement été beaucoup moins dévastés que s'ils n'avaient pas aussi bénéficié d'une haute technologie des Japonais dans la construction de ce type d'ouvrage. En termes de prévention des risques, relativement efficace, je vais en parler après, mais efficace, je vais en parler tout de suite. Il y a des programmes depuis une vingtaine d'années qui sont développés dans les écoles et dans les bureaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Japon. Moi, j'y suis allé quelques fois et c'est très marrant de se retrouver dans une administration et d'un coup, tout s'arrête et on voit tout le monde qui se lève, qui fait des exercices collectifs, qui se met sous la table, etc. C'est assez impressionnant, mais ça participe vraiment de la capacité de la société à digérer ce genre de crise. On y apprend les gestes qui sauvent, ce que nous, on n'apprend pas. Et on apprend quelles sont les zones refuges à rallier au plus proche de son lieu de travail, de son domicile, etc. Il y a beaucoup d'indications de ce type un peu partout dans les rues. On a aussi une forte, alors ça va faire plaisir à Emmanuel, une forte mémoire du risque, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de repères de submersions anciennes, parfois des submersions qui ont eu lieu il y a 4, 5, 6 siècles, avec des gros blocs qui ont été taillés, qui avaient été apportés par des tsunamis et qui ont été taillés en statues, etc., pour commémorer ces événements. Donc on a quand même ce genre de choses. Philippe Pelletier, qui est géographe à Lyon, je crois, oui, c'est sûr même, parle de socioculture de la coexistence entre l'homme et la nature au Japon, et apparemment c'est quand même quelque chose de très très fort, en tout cas sur les questions de tsunami, on le ressent vraiment beaucoup. Même si d'autres géographes disent que c'est quand même en déliquescence depuis quelques années maintenant. Autre élément de résilience, le système de communication. Assez efficace, les câbles Internet ont quand même encaissé sur les premières 24 heures une surcharge de 200% du trafic. SFR gérerait peut-être pas de la même manière aujourd'hui ici en France, je sais pas. En tout cas, beaucoup d'Internet qui a permis d'une part de communiquer au moment de l'alerte, et ça joue un rôle important. Et puis, des gens qui essayaient de se renseigner juste après sur leurs proches, sur leurs amis, sur les dégâts, etc. Et enfin, je m'arrêterai là sur les aspects positifs. Une société relativement obéissante, c'est un trait de la culture nippone assez connu. Ce qui s'est passé au moment du 3.11, c'est qu'avec cette explosion de la centrale de Fukushima et l'arrêt assez rapide d'autres centrales toutes proches, on a eu une chute brutale de 25% de la production électrique à l'échelle nationale. 25%, c'est beaucoup. Et du coup, le gouvernement, très très vite, a instauré des périodes de coupure générale d'électricité à Tokyo, dans les périphéries, a diminué le nombre de trains qui fonctionnent à l'électricité, a imposé des restrictions dans l'éclairage des magasins, des rues, etc. Et finalement, la population, et notamment à Tokyo, s'est pliée à ces restrictions. Encore une fois, je pense qu'on n'aurait pas été aussi obéissant en France et on aurait peut-être eu une révolution. Ça n'a pas été le cas au Japon. Donc ça, c'est quand même un élément. On ne peut pas compter sans quand on parle de risque naturel. Par contre, évidemment, comme toute chose, ça a aussi des effets pervers. Alors je vais insister notamment sur cette société obéissante. Qui suit les consignes à la lettre. C'est très frappant quand vous prenez le métro. Vous avez une file pour rentrer, une file pour sortir, et vraiment personne n'est en dehors de la file. C'est assez rigolo. Et ça joue un effet bénéfique quand on a des consignes à suivre en cas d'alerte. C'est pas le bazar comme ça pourrait être ailleurs. Par contre, il y a des effets pervers à tout ça. C'est cette histoire assez dramatique d'une école. Je me rappelle plus de la localité. Mais où j'ai pris la photo là, d'une école, les enseignants ont fait donc évacuer les enfants vers le pont, qui était la zone de refuge classique dédiée, celle qu'on apprenait à rallier pendant les exercices, etc. Mais bon, les vagues sont passées par-dessus, donc évidemment, il y a eu très très peu de survivants, il n'y en a même pas eu. Alors que juste à côté, il y avait juste derrière, le pont est là, l'école est là, et juste derrière, il y avait une colline. Et si, en fait, on était monté sur la colline, on aurait sauvé tout le monde. Mais la consigne, c'était qu'en cas de tsunami, d'alerte tsunami, on allait sur le pont, sur la zone refuge. Autre effet un peu pervers, l'habitude des tsunamis. Donc ici, ce qu'on a vu en discutant avec ce monsieur, c'est monsieur Yamazaki, dans un camp de réfugiés, c'est que l'expérience, en fait, peut être complètement contre-productive quand on a affaire à un aléa, donc à un événement, qui dépasse les caractéristiques habituelles. Ce monsieur nous disait, je cite, « Notre expérience nous a trompés il y a un an ». En fait, ce monsieur a quand même 76 ans, donc vit depuis très longtemps dans cette zone-là, donc a une certaine expérience. Il n'avait jamais vu d'événement aussi intense. Et il nous racontait que quand a été lancée l'alerte tsunami, en fait, on leur a annoncé un gros tsunami. Donc ils ont imaginé ce qu'ils avaient vu de plus gros dans la région, c'est-à-dire des vagues à peu près de 6 mètres. Donc ils se sont tous rapatriés vers des zones à l'intérieur qu'ils savaient sûres à ces gros tsunamis. Le problème, c'est que le 11 mars, les vagues ont été deux fois plus hautes. Donc évidemment, c'est allé un peu plus loin que prévu. Et il y a beaucoup de gens qui, finalement, se sont arrêtés à la limite connue des submersions et ne sont pas allés plus loin. Donc voilà, vous imaginez la suite. D'autres exemples, ça c'était sur l'ampleur. L'habitude des tsunamis, alors en général, sur cette côte-là, quand un tremblement de terre survient, disons 15-20 minutes après, vous avez la vague qui arrive à la côte. Et ça, c'est une information qui est relayée dans les réseaux sociaux, etc. Les gens savent que le temps entre le tremblement de terre et l'arrivée de la vague, c'est 15-20 minutes. Donc les gens sont partis à l'annonce du tremblement de terre et de l'arrivée du tsunami. au bout de 20 minutes, il n'y avait toujours rien. Donc, ils se sont dit, bah, fausse alerte, donc on revient. En fait, cet événement-là était un peu atypique puisque la vague est arrivée 40 minutes après le tremblement de terre. Donc, évidemment, les gens se sont fait piéger sur le chemin du retour. Donc, dès que l'événement dépasse les normes habituelles, une société bien préparée, en fait, se retrouve... Alors, aussi impréparée qu'une autre, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, cette habitude ne la met pas forcément complètement à l'abri quand il y a des événements hors normes. Un autre champ d'enseignement sur cette catastrophe, sur la sûreté nucléaire. Il y a un mythe de la sûreté nucléaire au Japon, mais en fait, il existe en France aussi, et je pense qu'il existe partout. C'est une industrie qui a été développée donc, dans les années 50, mais qui a surtout été intensifiée dans les années 70 pour un but très clair de production d'énergie dans un contexte de fort développement économique du pays et dans un contexte de crise pétrolière qui rendait le baril de pétrole un peu trop cher. Donc un besoin énergétique vital... Et donc une industrie qui a dû se développer et qui s'est développée finalement en se dotant d'une image de sûreté absolue avec le nucléaire. En fait, il n'y a pas tellement de risques, ne vous inquiétez pas. Ça a amené progressivement, à force de s'ancrer dans la tête que cette énergie était complètement sûre, ça a généré une forme de déni du risque. Enfin, c'est comme quand vous fumez, hein. Vous savez que c'est pas bon, mais enfin, au quotidien, vous allumez quand même une clope. C'est un peu ce principe-là, à une échelle un peu plus large. Ce mythe de la sûreté nucléaire a généré une forme de déni du risque. Donc, un déni du risque, évidemment, consciemment entretenu par les responsables politiques et économiques et inconsciemment accepté par les acteurs locaux et les populations, ce qui génère ensuite des mécanismes d'aveuglement et des phénomènes de corruption qui ont lié les langues au fil des décennies. C'est un sujet vraiment tabou dont on ne parle pas. Et faire de la recherche sur cet accident nucléaire juste après, je peux vous dire que c'était pas si simple. En tout cas, en ce qui nous concerne, ces éléments-là nous amènent à faire le constat d'une vraie impréparation. Et alors ça, c'est vraiment le point le plus étonnant dans cette catastrophe, une vraie impréparation du pays à faire face à un accident nucléaire de cette ampleur-là. Juste pour vous donner quelques éléments plus concrets, parce qu'on pense, on promeut l'idée que cette industrie est sûre. À partir de là, on dénie, on renie l'existence même d'un éventuel problème. À partir de là, ce qu'on a pu voir au Japon, c'est qu'aucun texte n'envisageait, aucun texte officiel n'envisageait la rupture des systèmes électriques au-delà de 30 minutes. Et donc, évidemment, si ça dépassait, il n'y avait aucun manuel technique, rien du tout. C'est quand même assez étonnant quand on ne se le dit pas a priori. Ben voilà. En mars, ils ont mis quand même 6 jours à remettre le courant. Donc, entre 30 minutes et 6 jours, les réacteurs ont le temps de chauffer. La commission de sûreté nucléaire qui écrivait noir sur blanc qu'il est inutile de considérer un arrêt accidentel prolongé d'une centrale. Donc évidemment, aucun plan d'évacuation des populations au-delà de 24 heures et au-delà d'un rayon de 10 km. Il y a encore des évacués aujourd'hui, et 10 km, bon, ça s'est diffusé bien au-delà, c'est ce que je veux dire. Et alors sur le moment, un autre exemple sur cette question du mythe de la sûreté qui génère un déni du risque et qui génère une impréparation. Sur le moment, il n'y a eu aucune prise en compte du scénario du pire qu'avait dressé la commission de l'énergie nucléaire japonaise à la demande, alors secrète, mais à la demande quand même du Premier ministre, et qui disait ceci, et alors je vous le cite parce que quand même ça vaut son pesant d'or. Donc c'était première 72 heures après la catastrophe. Hein. Donc cette commission écrivait « Dans la pire des configurations, tous les habitants vivant dans un rayon d'au moins 170 km autour de la centrale de Fukushima devront être relogés ailleurs. Et la relocalisation devrait être envisagée pour les populations vivant dans un rayon de 250 km. Sans compter que l'évacuation des 30 millions d'habitants de l'aire métropolitaine de Tokyo pourrait devenir nécessaire en fonction de la direction des vents. » Et ce scénario du pire qu'aurait pourtant dû alerter sur le fait que potentiellement on est face à un problème énorme, en fait a complètement été évacuée. On l'a retrouvée 2 ans après. Enfin, des chercheurs ont fait une enquête sur les travaux de la commission et a retrouvé ce scénario du pire 2 ans après. Personne n'en avait parlé. Donc on évacue le problème, on évacue l'éventualité du risque, certainement pour pouvoir gérer sur le moment, je ne sais pas. Associé à ce mythe de la sûreté et à ce déni du risque, évidemment, associé, il y a une stratégie du silence. Alors silence, ça fuit, c'est... mauvais jeu de mots, j'en suis navré. Donc finalement le mythe a opéré aussi d'une part en termes d'impréparation et puis il y a un deuxième pan d'erreur qui a relié à cette question du mythe et du déni du risque, des erreurs qui touchent à la communication aux populations et aux autorités locales quant à la diffusion du nuage radioactif et aux manières d'y faire face. Je vous donne quelques exemples très vite. Par exemple, dans la stratégie du silence que d'autres appellent la stratégie du mensonge, mais je voulais essayer d'être un peu plus soft, mais c'est de la stratégie du mensonge. Le gouvernement a fixé le seuil de tolérance en matière de charges radioactives qu'on peut, nous, humains, accepter à 20 millisieverts par an. Alors, millisievert, c'est l'unité de mesure. Bref, 20 millisieverts par an. Au-delà de ce seuil... Dans ce cas-là, l'évacuation était officiellement ordonnée, sauf que la Commission internationale de radioprotection le fixe à 1 millisievert par an, donc 20 fois moins, et personne n'a jamais su pourquoi ce seuil de 20 millisievert avait été édicté par le gouvernement japonais. En tout cas, au-delà des normes internationales, ça paraît assez aberrant. Autre exemple de cette stratégie du silence ou du mensonge, le Japon dispose depuis la fin des années 80 d'un système qui s'appelle SPIDI. Je ne sais plus ce que ça veut dire, l'acronyme en anglais. En tout cas, c'est un système de simulation de la propagation d'un nuage radioactif. Alors, en fonction du taux d'émission à la source, donc combien on lâche dans l'atmosphère, dans l'air, en fonction de la vitesse du vent et de sa direction. Donc c'est un outil de simulation de comment le nuage radioactif va se propager dans les heures qui suivent une catastrophe. Donc c'est évidemment extrêmement utile pour organiser des évacuations, vous en doutez bien. Mais il se trouve que ce qu'ont montré les analystes, c'est que les premières simulations, d'une part, ont été remises en cause par le gouvernement, disant que en fait il y avait une non-fiabilité des données sur les sources d'émissions, mais il n'y avait aucun contre-argument à ce qui avait été mis comme type de données dans le système SPIDI. Donc une remise en cause infondée. Et surtout, il y a eu finalement, ce système SPIDI a produit des cartes, et ces cartes, au jour le jour, et ces cartes, en fait, ont mis à peu près 10 jours à arriver sur le bureau du Premier ministre, qui était censé quand même prendre des décisions en termes d'évacuation. Évidemment, quand elles arrivent sur le bureau du Premier ministre, elles ne servent plus à rien, vu qu'elles concernaient déjà le passé. Et dernier élément, alors j'insiste un peu là-dessus, mais c'est quand même assez étonnant de voir ce qui se passe dans un pays en développement, quand il y a une catastrophe, il y a des morts directes, etc., on comprend un peu mieux ce qui se passe. C'est assez intéressant de voir quels sont les rouages de la catastrophe dans un pays développé. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Dernier exemple, mensonge en population, c'est vraiment du circulé, il n'y a rien à voir, puisque des gens ont... Enfin, nous, on racontait à nos équipes sur place qu'ils avaient vu arriver des gens chez eux en blouse blanche, compteur GGR à la main, masque, etc., qui faisaient des mesures, les instruments crépitaient à mort. Et quand les gens demandaient à ces hommes en blanc ce qui se passait, les hommes en blanc disaient « vous inquiétez pas, c'est contrôle de routine, etc. » Ce qui est assez étonnant. Et il y a eu des... Enfin, certains de ces hommes ont avoué plusieurs mois après qu'en fait, on leur avait demandé de surtout ne rien dire à la population. Vous êtes quand même face à un accident nucléaire. Il y a un risque à l'évidence. Il y a quand même... Enfin, c'est assez étonnant de voir qu'aucune information a été diffusée auprès de la population. Voilà. Au final, un affaiblissement considérable de la confiance des populations envers les municipalités, envers le gouvernement, et vraiment des tensions très dures entre municipalités et gouvernement, puisque les municipalités se sont retrouvées, excusez-moi, passez-moi l'expression, mais à poil, et ont dû gérer une catastrophe qu'elles n'avaient absolument pas les moyens de gérer, face à des populations évidemment très en colère. Donc ça a créé quand même des tensions extrêmement fortes dans un pays dans lequel la tension officielle se laisse peu voir en général. Un autre enseignement, j'aurai bientôt fini, vous inquiétez pas, un autre enseignement de cette catastrophe, alors là qui est plus généralisable à d'autres catastrophes naturelles, c'est que comme d'habitude, cet événement a mis en lumière des conditions préalables à la catastrophe. C'est pas juste un tsunami, un tremblement de terre qui arrive et qui génère tous les impacts qu'on a vus tout à l'heure ou qu'on a ici sur cette chaîne d'impact. C'est aussi parce qu'il y a des conditions préalables qui font que il y a tous ces effets d'enchaînement. Et deux conditions préalables dans la région de Tohoku, un isolement rural et une addiction nucléaire. Alors en termes d'isolement rural, c'est une région qui est historiquement relativement enclavée, bien qu'il y ait eu des efforts de désenclavement sur les dernières décennies. N'empêche que, région relativement enclavée et qui, je vous le disais tout à l'heure, à part des activités agricoles, de pêche et un petit peu de manufacture, en fait, est en proie à un manque de perspectives économiques importantes. Ce qui fait que tout ça explique que plusieurs municipalités se sont retrouvées complètement coupées du monde le 3.11 et sans vraiment beaucoup de moyens d'intervention, parce que c'est des collectivités finalement assez pauvres, avec une couverture médicale insuffisante et une population vieillissante déjà avant la catastrophe. Donc forcément une situation qui s'est empirée puisque les jeunes couples, notamment, soit pour trouver du travail, soit pour mettre leurs enfants à l'abri, ont décidé de partir de ces régions, ont vraiment eu peur, et il y a de quoi, notamment quand il y a de la menace radioactive derrière, et évidemment ne comptent pas revenir. Donc ça accentue finalement le vieillissement de ces communes rurales qui évidemment vont pas pouvoir se relever de... du déclin économique, etc. Donc on a vraiment une accentuation de problèmes qui préexistaient quand même. Une addiction nucléaire, important. Donc des régions enclavées qui manquaient de perspectives économiques. Quand on leur propose de créer, d'implanter une centrale nucléaire sur leur territoire, d'autant plus qu'on leur dit que de toute façon c'est une industrie complètement sûre, très vite, en fait, les municipalités ont vu en les centrales nucléaires une source de regains économiques considérable. Donc finalement, la manne, comme on a la manne touristique sur les petites îles tropicales, bon ben là, c'était moins joyeux. C'est l'installation d'une centrale nucléaire qui, évidemment, génère de nombreux emplois, et pas que des emplois sous-qualifiés. Hein. Les jeunes diplômés de certaines villes nous disaient qu'ils avaient été ravis de pouvoir trouver des emplois qualifiés sur leur territoire, donc c'est pas que de l'exploitation de main d'œuvre, c'est aussi de l'emploi qualifié. Évidemment, du coup, tout un tissu économique et social, des écoles, un marché de l'immobilier, des boutiques qui vendent de l'alimentation, etc., etc. Donc vraiment un point d'entrée pour le développement de ces régions qui était important. Et la région de Tohoku, il se trouve qu'elle est relativement en bonne place par rapport à Tokyo, qui est quand même le gros consommateur d'énergie du pays. Elle n'est pas trop loin, donc Tokyo peut bénéficier d'une énergie pas très chère, et ces régions-là bénéficient de beaucoup d'emplois et donc d'une revitalisation de leur tissu économique. Donc tout était réuni pour qu'elles acceptent, raison économique, en plus une industrie safe, donc tout va bien. Énormément de municipalités rurales ont évidemment été candidates à l'accueil d'une centrale nucléaire. Et vous comprenez bien qu'à partir de là, et notamment parce qu'on dit que c'est safe et qu'il n'y a pas de risque, on a un effet de retour, et c'est le principe de l'addiction. Donc, tout ça pour dire que quand on a affaire à des catastrophes, et quand elles sont générées par un événement naturel, on a évidemment une combinaison de facteurs très variés. Donc un tas d'éléments qui nous permettent vraiment de conclure aujourd'hui que le 3.11 c'est pas juste Fukushima, c'est pas vrai. Le 3.11 c'est une catastrophe naturelle. Alors naturelle parce qu'elle a été générée par des aléas eux-mêmes d'origine naturelle, et catastrophe parce que il y a des facteurs humains qui ont amplifié le problème. Mais réduire cet événement-là à une catastrophe industrielle, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça conduirait à négliger le fait que les nations développées sont elles aussi vulnérables. En tout cas, elles ne sont pas invulnérables aux risques naturels. Et plus généralement, parce que cet enseignement sur cette catastrophe-là permet d'élargir à d'autres champs et notamment le champ du changement climatique qui est important. Donc les nations développées ne sont pas du tout invulnérables aux changements environnementaux, et nous, c'est ce qu'on essaie de défendre comme message dans le cadre de conférences internationales entre les pays qui discutent de comment faire face au problème du changement climatique. On essaie de leur faire prendre conscience que cette question du changement climatique les concerne aussi, pas tout de suite, mais à long terme, et que du coup, il faut s'en préoccuper. En tout cas, les nations développées ne sont pas invulnérables face aux risques naturels, des risques naturels qui peuvent avoir des impacts sur les cours moyen et long terme. Je vous rappelle que ce qu'on a vu, nous, dans nos chaînes d'impact, c'est que à peu près 15% des impacts qu'on a recensés ont aussi une des conséquences à échelle internationale. Vous avez tous entendu parler certainement de la décision de l'Allemagne à peine quelques mois après, même peut-être quelques semaines après l'accident de Fukushima, la décision de l'Allemagne de sortir tout bonnement de l'industrie nucléaire. Elle y pensait certainement bien avant, on ne peut pas s'imaginer que ce n'était pas le cas. Mais enfin, Fukushima arrive et quelques semaines ou quelques mois après, la décision est ferme, prise, définitive. On peut attribuer une part de cette décision à cet événement-là japonais, donc conséquences internationales. Je vous parlais des manufactures dans la région de Tohoku qui produisent beaucoup de pièces automobiles de base et des pièces électroniques pour les ordinateurs, etc. Le fait que ces manufactures aient été complètement ravagées par le tsunami a fait que, aux États-Unis et en Europe, des grands groupes, notamment General Motors et PSA, Peugeot, Citroën pour les voitures, ont dû faire face à des ruptures de production de leur chaîne pendant plusieurs semaines. Donc ça s'est certainement traduit aussi par de la perte d'emplois en France, aux États-Unis, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas juste un problème national à un moment donné. Enfin, moi, pour moi, à force de travailler sur ces catastrophes, pour moi, le 3.11 est vraiment une marque très claire qu'on est vraiment rentré dans l'ère du risque global et que, finalement, un événement à un endroit donné génère des conséquences très éloignées en termes de nature. Une perte d'emploi dans un village français parce que l'usine qui produit des pièces automobiles ne fournit plus celle qui construit les automobiles et du coup, on a des pertes d'emploi. C'est très éloigné d'un tremblement de terre, mais finalement, quand on retrace les chaînes d'impact, on se rend compte que c'est pas si éloigné que ça. Voilà. Un autre trait de conclusion, c'est que ces sociétés développées, industrialisées, mais exactement de la même manière que celles des pays émergents et des pays en développement, qui quand même essaient de suivre une trajectoire de développement qui ressemble à la nôtre, donc qui s'acheminent progressivement plus vite chez les émergents que chez les pays en développement, mais qui s'acheminent vers un modèle de développement qui est le nôtre aujourd'hui, donc avec les mêmes risques, ne doivent pas céder à l'illusion du développement sûr. On a d'autres exemples de cette illusion du développement sûr. C'est des travaux qu'a développé un certain Burby à la suite de l'ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis, qui montraient bien que quand on a un système comme ça, un cyclone qui arrive, donc on commence à construire des digues. Aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, on en a profité pour les construire un peu plus grandes. Du coup, ça a favorisé en fait le développement de l'urbanisation et on a comme ça gagné au fur et à mesure. Et finalement, plus on a construit de digues, plus ces espaces-là qui avant étaient jugés inhabitables parce que risqués, en fait, ont été plutôt jugés comme étant protégés. Quand on met une digue, les gens se disent « Ah ben c'est protégé !» au lieu de se dire « Ah ben il y a peut-être un risque, tiens !» Et en fait, ça favorise effectivement ce paradoxe du développement sûr qui est un peu schématisé comme ça, un développement économique qui amène quand même le développement de solutions technologiques, notamment des digues, des systèmes plus résistants, et surtout une culture vraiment ingénérique de la nature et de tous les systèmes qui, dans un premier temps, réduit clairement la vulnérabilité aux aléas naturels. Mais le problème, c'est qu'en la réduisant, finalement ça l'augmente. On la réduit et donc du coup on a une émergence, un ancrage de ce mythe de la sûreté. On est protégé, on est capable de faire face aux événements naturels, on les maîtrise, ce qui amène évidemment une perte de vigilance. Enfin, je me rappelle de deux textes que tu as écrits là sur la Charente maritime. On voit bien qu'avant, le fait d'être exposé régulièrement à des crises, à des aléas, entretenait finalement aussi la vigilance des populations face à l'existence de ce risque, ce que nous on oublie en fait progressivement, Donc perte de vigilance, donc affaiblissement des systèmes de prévention et d'anticipation des risques, et donc du coup une augmentation finalement de l'exposition des populations, des biens et des activités, ce qui amène en fait à long terme à un accroissement considérable de la vulnérabilité aux aléas naturels. Dernier point, enfin je crois, j'imagine. Ce qu'on peut tirer, en tout cas nous, le grand message qu'on tire, parce que quand on développe des travaux de recherche, il faut faire de la recherche, les mettre les mains dans le cambouis, etc. Mais il faut tirer des grands enseignements et les formuler de manière politiquement acceptable, puisque le but de tout un chacun, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux sur nos territoires. Donc voilà, c'est un peu cette recommandation de réinstaurer un rapport des sociétés à l'environnement et sortir de cette logique que quand on s'occupe d'environnement, alors les risques naturels font partie de ce grand champ de l'environnement, sortir de cette idée que l'environnement, c'est qu'une question d'écologie, c'est pas vrai. En fait, c'est une question de développement. C'est vraiment ce que montre ce genre de cas. On n'est pas face à de l'écologie, on est face à du développement soutenable et accepter la contrainte environnementale, ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour la suite. Voilà, je m'arrête là.